Vous écoutez France Inter, c'est l'heure de la marche de l'histoire de Jean Lebrun. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Alain Passerelle.
Et des jeux de mots cette fois, M-O-T-S.
Eh oui, exactement. Et demain, c'est le 10e anniversaire de la mort à Saint-Rémy-les-Chevreuses de Raymond Devos. Radio France, l'INA, publie d'ailleurs à cette occasion un CD.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Raymond Devos.
Quelquefois on dit que je délire, que je divague, que j'extravague, alors qu'il n'y a pas plus raisonnable que moi. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Sans évidemment y observer et observer. Un exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, ben, au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ils l'écoutent. Et tête baissée encore, ils risquent pas de le voir le silence. Parce que les gens redoutent le silence, ils le redoutent. Alors lorsque le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Je suis désolé, mais lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois.
Ceci dit, Devos s'était bien embarrassé quand on lui demandait d'indiquer le chemin qui menait à cet imaginaire. Il n'y a pas d'itinéraire. C'est un oubli, parfois. Il préférait ceux qui ne savaient plus ce qu'il faisait la seconde d'avant. C'est une bifurcation, souvent. Il aimait citer Alfred Jarry, un jour que celui-ci tirait à l'arc en direction du jardin d'à côté et que la voisine s'alarmait. « Mais vous allez tuer mes enfants ?» L'auteur du but eut cette phrase. « Ce n'est pas grave, madame, je vous en ferai d'autres. » On n'est pas loin de la scène, sans cesse évoquée, de Biarritz au milieu des années 50 et qui a fait des clics. Le jeune Devos demandait à voir la mère, on lui disait de prendre garde car elle était démontée. Il avait eu cette réplique incongrue et vous la remontez quand ? Un dictionnaire pourrait-il exprimer ce qui ne se résume ni ne se cartographie ? Le petit Robert s'y est essayé, Raymond Devos, 1922-2006. Prenant au pied de la lettre les expressions de la langue courante, il projette dans l'imaginaire, comiquement et sur le ton de l'angoisse, des situations d'une absurdité clownesque. C'est pas mal résumé, il manque tout de même un mot essentiel, le rire, parce que Devos, c'est aussi celui qui fait passer une salle d'un rire mécanique, animal, à un rire plus civilisé. Mais enfin, comment tout dire ? Devos, par ses mots, mais aussi par son corps de sumo lunaire, déborde de partout.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Olivier Mongin, bonjour.
Bonjour.
Entre autres, multiples curiosités, vous avez publié « De quoi rions-nous ?»,« Notre société et ses comics », c'est en poche, pluriel. « Éclat de rire », c'est aux éditions du Seuil. À l'époque, vous étiez directeur de l'excellente revue Esprit et vous vous êtes retrouvé sur un plateau de télévision avec Devos.
Ah oui, c'est un des grands souvenirs de ma vie. Je venais de publier « Éclat de rire » et Guillaume Durand a monté un plateau, justement, avec Danny Boone et Fellag. Moi, j'ai une grande admiration pour Fellag. Et au milieu de tout ce monde-là, il y avait ce qui était le modèle de tous ces gens-là, c'est-à-dire Devos, qui d'ailleurs a salué Danny Boone, pour lequel il avait à l'époque le plus grand respect, je tiens à le dire. Devos respectait beaucoup les comiques qui montaient. Et Fellag, bien sûr, était là. C'est là au moment où d'ailleurs Fellag a découvert que Danny Boone et lui étaient à peu près du même village qu'Abilde, en termes généalogiques. Voilà.
Et puis qu'ils étaient de la famille de Devos, qui était notre
voilà,
mère.
Voilà, mais à côté à de tous. Devos, qui suait partout en plein été, c'était un moment extraordinaire.
Dites-moi, on va pas refaire sa biographie, Muscron, Belgique, 1922, enfant dans le Nord, retiré tôt de l'école alors qu'il y faisait un début d'études brillante parce que sa famille était ruinée. Il a connu le manteau de misère qui colle à la peau.
Oui, ça, on ne le sait pas toujours. On croit qu'il a été une bête de cirque très vite. Son père était expert comptable dans le Nord. Il a fait faillite, ça peut arriver. Donc, il a fait plein de petits boulots. On lit ça dans les bios des acteurs américains, mais ça peut arriver aussi en France. Il a fait plein de petits boulots, mais assez vite, il décide de faire du mime. Alors lui, qui est devenu, non pas un bavard, mais un homme de langage extraordinaire, il apprend à travailler le corps avec un grand monsieur qui s'appelle De Croo. On va pas jouer les intellos là, mais c'est un homme qui connaît Bachelard par cœur, c'est qu'il faut aussi le dire, et lui aimait le rappeler. Et donc, il travaille avec De Croo. Ensuite, il travaille donc le corps, il travaille les arts du cirque, on en parlera peut-être, et surtout, il travaille en troupe. Il va rentrer dans la troupe de Jacques Fabry, dans d'autres troupes. C'est donc pour aller très vite. C'est une bête de scène, c'est un homme de scène. Et je pense qu'on peut pas comprendre De Vos si on comprend pas que son territoire, c'est la scène. Donc il n'est pas trop la télé. Reste que c'est peut-être le dernier grand comique qui a encore profité de la télé parce qu'il
occupait... Parce que les comiques contemporains, ils descendent de l'écran, ils montent pas sur la scène.
Parce qu'un grand comique, pour moi, comme Félag, c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais pas me montrer une minute et demie. Moi, j'ai besoin d'une heure et demie pour faire un one-man show. À l'époque, Jacques Chancel, il invitait De Vos, c'est qu'il pouvait faire un one-man show. Aujourd'hui, vous imaginez mieux que moi, c'est 1 minute 30, c'est normé, top, terminé.
Alors le théâtre, c'est la rive gauche, il y a des cabarets, il y a des salles de théâtre qui sont à peine plus grandes que les cabarets, ça va de la Seine, la rue de la Huchette, à Plaisance, en passant par le Vieux Colombier, où il suit les cours de Tania Balachova, ou le théâtre Mouffetard, à l'époque, c'est vraiment une époque qui remonte à la plus haute antiquité, la radio nationale allait enregistrer des spectacles dans les petits théâtres de la rive gauche, comme celui-ci, en 1949, où le nom de De Vos apparaît au milieu de beaucoup d'autres.
Mesdames, messieurs, voulez-vous écouter maintenant en émission différée un montage radiophonique spécial du nouveau spectacle que donne actuellement le Théâtre Mouffetard à Paris, Le Cirque aux Illusions, de René Aubert. Interprété par Margolion, André Var, Christiane Karlov, Ludmila Holz, Marie-Josée Laurent, Madeleine Marie, Jacques Cousseau, Maurice Barnet, René Brun, Marcel Cuvelier, André Daguenet, Raymond DeVos et Arsenio Fregnac. Dans le domaine de l'avant-garde, un fait est particulièrement significatif dans le déroulement de la saison théâtrale 48-49. C'est la multiplication des scènes où peuvent se révéler les auteurs nouveaux. Cela a été le cas pour le théâtre de la Huchette. C'est maintenant celui du théâtre Mouffetard, dirigé et animé par Jean Doac. Le rideau s'est levé sur le jardin de Girel. À droite, la maison. À gauche, un grand portail à deux battants. Un puits. Le tout donnant sur la campagne. C'est l'été, il fait chaud, et Girel est étendu attendant Gustave. Gustave est parti depuis 30 ans, oui. Chercher un flacon de parfum.
Girel attend son époux depuis 30 ans, on dirait du Ionesco. C'est l'époque d'ailleurs.
Oui, c'est l'époque, c'est Adamov, c'est Ionesco. C'est l'époque où effectivement on parle de ce théâtre de l'absurde. Reste qu'il faut bien voir que De Vos n'est pas simplement un manieur de mots, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est aussi un corps qui travaille. Donc en même temps qu'il apprend à manier les mots dans cette conjoncture-là, qui est aussi une conjoncture qu'on retrouve aujourd'hui avec le succès que rencontre Feydeau. Parce que Feydeau, c'est un théâtre de l'absurde, qui était considéré comme populaire, comme bourgeois, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il rentre dans le théâtre public. Et là, on a appris à dissoudre le langage, à le casser un peu, à le triturer, à le manier. Et De Vos, là, c'est là qu'il apprend. C'est là qu'il fait ses marques, tout en faisant ses marques sur la scène. Une fois de plus, c'est le théâtre.
Oui.
Et c'est pas le cirque, là encore, mais, voilà.
C'est pas le cirque, parce que Tati dit, vous parlez trop pour être clown.
Vous êtes trop bavard.
C'est
même,
pas piste du mime, parce que Étienne Decroux lui dit c'est formidable ce que vous faites, dommage que vous ne soyez pas mime. C'est pas le comédien, parce qu'il est bon dans la troupe, mais il va chercher à créer des monologues. Est-ce que c'est le musicien? Dans son grenier de Saint-Rémy-les-Chevreuses, la maison qu'il a habité une cinquantaine d'années, après qu'il a fait un peu fortune, il y avait des instruments de toutes sortes qui étaient entassés. Il y avait le piano à queue, mais il y avait une harpe, deux harpes, un accordéon, deux accordéons.
Moi, je dirais que ce soit les mots, la musique, on trouve chez De Vos le même art de faire en permanence. C'est-à-dire, le monde est fou, ça dissonne, il n'y a pas de rythme, et il faut inventer quelque chose ensemble. Donc, vous voyez, constamment, donc c'est là où il va au-delà du théâtre de l'absurde, etc. Parce que lui, son question, c'est, moi, j'aime pas les narcisses. Il disait, moi, je suis plusieurs, c'est-à-dire, moi, je suis moi et mon public, hein, déjà. Donc, de même, j'ai pas deux, trois mots narcissiques à vous vendre. Avec le langage un peu dissous qu'est le nôtre aujourd'hui, faut créer un langage commun. Et ça, c'est le génie de De Vos pour moi. C'est qu'il sait très bien que le comique, ça peut aller, et puis si on dépasse l'absurde, ça peut aller vers le racisme, ça peut aller vers la dégradation. Et lui, son problème, c'est d'inventer quelque chose. C'est ce qu'il appelle en permanence le miracle de l'imaginaire. C'est l'imagination. Mais ça, il va pas chercher dans le réel. Le réel l'intéresse que très moyennement.
Et ça commence, dit-il souvent, par un déclic, la fameuse scène de Biarritz.
Il y a un déclic.
Je voudrais voir la mer est démontée, monsieur, quand la remontez-vous? Il évoque ça dans ce sketch qui n'est pas l'un des plus connus de sa carrière et qu'il présente ainsi.
Ça commence toujours par une phrase obsédante, un sketch. Alors, la rota, c'est ça. Ça m'a été inspiré par mon professeur que j'avais à l'époque, qui était un gitan. Je voulais apprendre la rota parce que j'aimais bien ce... Et je lui disais, il faudrait que vous m'appreniez la rota. Et ce jour-là, il m'a dit, eh ben, la rota, c'est ça. Et il m'a montré sur la guitare ce que c'était, le thème initial. Ah, j'ai dit, bon, ben, c'est bien. Je l'ai fait, d'ailleurs. Et je dis, et ensuite ? Alors, il me dit, ensuite, il y a évidemment des variations. J'ai dit, ben, c'est ça que je voudrais. Alors, il a commencé à me montrer une petite variation, mais assez difficile à exécuter. Et il a dû sentir que jamais j'arriverai à faire ça. Et il m'a dit, mais la rota, en fond, c'est ça. C'est ça.
Quand je joue ça, les gens disent, tiens, il va jouer la rota. La rota. La vraie rota. La rota, c'est ça, n'est-ce pas? Un jour, il y a un copain qui m'a joué un truc comme ça, lui. Il m'a joué ça. Mais j'ai, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, il dit, je frappe. Ben, j'ai, pour la rota, faut pas te frapper, c'est ça, la rota. C'est ça, la rota. Un jour, il y a une maman qui m'a présenté son bébé. Elle me dit, je joue déjà la rota, je voudrais que vous l'écoutiez. J'ai dit, quel âge il a ? Elle me dit, 6 mois. Bon, ben, j'ai dit, il n'y a pas d'âge pour la rota. Alors, avec ses petits doigts, il m'a joué un truc comme ça. J'ai dit à la maman, pour 6 mois, oui. Oui. Mais voulez-vous me permettre de vous dire ce que je pense ? Et le truc !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Raymond DeVos avec un de ses premiers grands sketchs 1954. Olivier Mongin.
Oui. Ah ben, la rota, c'est un sketch devenu légendaire. Qui n'est pas un sketch hyper excitant au sens strict. Parce que vous voyez bien, on navigue. C'est qui va bien faire la rota. La rota, c'est un peu absurde. C'était un quinçon. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... On a tout DeVos un peu là. Parce que on a un DeVos qui n'est pas qu'un homme de langage. On a le DeVos qui est un homme de musique. Il a toujours dit qu'il aurait pu être musicien et chanteur. De même qu'il aurait voulu être comédien de cinéma. Mais finalement, c'est devenu cette bête de scène. Mais pourquoi il est une bête de scène? Là, on est à la radio. Il faut quand même imaginer sur scène, que ce soit à l'Olympia, au Théâtre Fontaine, DeVos, il était entouré de, j'exagère bien sûr, d'une trentaine d'instruments. Et il avait son pianiste à côté. Il passait d'un instrument à l'autre comme s'il passait d'une personne à l'autre. Et donc là, on passe d'un son à l'autre en évoquant en permanence, il évoque le tango, là on n'a pas entendu tout le sketch. À la fin, il va évoquer la bourrée paysanne, qui j'imagine vous est chère, Jean Lebrun.
Je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
Bah, une époque où vous naviguiez dans les terres françaises et en montrant qu'on peut respecter. C'est justement ce qui est très intéressant. Quand on voit bien que la rota, bah, y a le petit génie là qui vient juste de naître, qui fait peut-être bien la rota. Y a le danseur de tango qui lui connaît un peu l'espagnol, et y a celui qui danse la bourrée paysanne vers la fin. On voit très bien que chez DeVos, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il agrège tout ça. Et au fond, il agrège, et moi je pense que c'est son génie. Si on écoute DeVos simplement et qu'on le voit pas en scène, on pense que c'est un artiste du langage qui pratique le non-sens à la britannique. On en fait un surréaliste. On a tout écrit sur DeVos, uniquement sur le langage. C'est du langage. On va en parler tout à l'heure du corps, mais c'est surtout la scène. Mais la scène, elle était remplie. Elle n'était pas remplie des gens de la troupe de Jacques Fabry et qu'elle y travaillait. Elle est remplie d'instruments. Elle est remplie de machines, comme on en a au cirque. C'est-à-dire, au fond, pour moi, DeVos, c'est quelqu'un qui sait que le cirque est en train de mourir. On vient de voir Parade de Jacques Tati. C'est la mort des clowns. Il y a Fellini. Mais lui, son problème, c'est de réinventer le clown, mais tout seul. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas deux. C'est lui qui se dédouble, et les instruments ne sont que des instruments de dédoublement.
Parlons du corps, puisque vous le suggérez, Olivier Mongin. Alors, je sais, on est à la radio, on n'a pas les mêmes ressources qu'au cinéma. Un article que vous avez publié dans Esprit, qui est repris dans Éclat de rire, fait une suggestion qui va peut-être faire une découverte à beaucoup de nos auditeurs. Voilà DeVos au cinéma, et pas dans n'importe quel film, dans Pierrot le fou de Godard. Alors, pour Godard, le cinéma, c'est pas un récit charpenté. Hein. Il faut pas que la censure logique continue de s'exercer. Et voilà une séquence qu'il a inventée, qui n'a pas de sens apparent. Jean-Paul Belmondo vient de voir s'échapper sur un bateau, un canot, Anna Karina. Il reste sur le quai du port, il se retourne, il allume sa cigarette. Le sketch qu'on va entendre, ce qui n'est pas un sketch, va durer 3 minutes, le temps de fumer la clope. On l'a en entier, là. Et Belmondo voit un personnage ébouriffé, ahurissant, qui est assis sur une bite d'amarrage. C'est Raymond Devos.
Ça va pas, mon vieux? Ah, c'est terre, là. Vous pouvez pas savoir ce que ça évoque pour moi. C'est terre, vous entendez, là?
Non, mais j'entends rien.
C'est terre, là, moi, c'est toute ma vie. Un jour, vous savez, j'étais chez moi. Ça jouait, ça. Elle était à côté de moi, comme ça, c'était une femme. Une magnifique belle. Je lui ai pris la main, comme ça. Et puis je la caressais, comme ça, au-dessus, n'est-ce pas? J'avais dit, est-ce que vous m'aimez? Et elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non. Alors j'ai acheté le disque de ça, parce que cette musique, ça m'avait... Et un jour, j'étais chez moi, j'avais mis le disque sur le pick-up, comme ça. Ça tournait dans ma tête. Ça chavirait. Elle était à côté de moi, c'était pas la même, c'était une autre. J'avais pris la main, puis je la caressais par en dessous, pour changer un peu. J'avais dit, est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait dit, ouais. Moi, je l'aimais pas, alors j'ai cassé le disque, j'ai dit, hey, ah! J'ouvre la radio. Ça jouait, ça. Elle était à côté de moi. Elle était de l'autre côté. Parce que j'étais chez elle. J'avais pris la main. Et puis je la caressais dans les deux sens parce que je voulais en finir. J'ai dit, est-ce que vous m'aimez? La la la. La la. Alors je l'ai gardé. La la la. 10 ans. La la la. La la la. La. 10 ans. C'est terre, je ne peux plus le supporter.
Et voilà, c'est dit, c'est fini. Belmondo a fini sa cigarette. Il saute dans un bateau qui passe. Il s'éloigne à son tour. Et reste le corps de Devos, ce corps de naufragé volontaire au bord du quai.
Oui, Devos, on l'a déjà dit, c'est du langage et du corps, mais c'est exceptionnel, faut bien le voir dans le comique contemporain. Et justement, quand j'ai écrit ce livre, ce qui m'intéressait, c'est que moi je suis fasciné des grands burlesques, Keaton, auquel j'ai écrit un livre aussi, c'est que le corps disparaît au seul profit du langage. J'ai rien contre le langage comique, mais il y a très peu de corporel. Il y a très peu. Depardieu est un peu essayé, Pierre Richard, mais ça n'a rien à voir. C'est des gens de cinéma. Et je pense que pour beaucoup de comiques contemporains, Devos reste le modèle parce que c'est un corps qui parle. Et pas n'importe quel corps. C'est
oui,
un corps obèse.
C'est un corps maladroit, oui.
Mais pas maladroit du tout. Jean Lebrun, c'est comment, peut-être que nous, si nous étions obèses,
nous serions maladroits, mais pas lui.
Ben justement, c'est là où les arts du cirque ont joué. Je ne sais pas si vous avez vu Malout de Bruno Dumont. Il y a un flic énorme, trois fois énorme comme Devos. Il est, je ne sais pas si on lui a mis des bouées de sauvetage sous qui le gonfle un peu, mais c'est quelqu'un d'extrêmement souple et de l'air. Et on a au théâtre français, il y a un comédien qui s'appelle Bagdasarian, qui est un type énorme, qui est un type qui rebondit en permanence. C'est comme une balle. C'est une balle. Et Devos, c'était ça. En scène, quand vous le voyez jouer avec ses instruments, c'est quelqu'un de très leste. Et ça fait penser, c'est dans les burlesques à Fatty Arbuckle qu'on redécouvre un peu aujourd'hui. C'est un énorme... Alors, lui, mais simplement, c'est pas Laurel et Hardy. Mais en quelque part, c'est Laurel et Hardy. Il a pas besoin d'un Laurel pour montrer que lui, le gros, il peut être aussi nerveux, aussi rapide que le petit.
Il a besoin juste d'une veste. C'est la même, d'ailleurs, qu'il porte dans le film de Godard et sur scène.
Toujours le même.
Il n'a pas un personnage avec un habit créé pour lui. Coluche porte, par exemple.
C'est ça qui va le distinguer. D'ailleurs, il avait du mal. On parlera peut-être de Coluche. Il n'aime pas les narcisses, dont l'idée... À la Coluche, moi je vais écrire l'histoire d'un mec, c'est-à-dire mon histoire, et puis avoir ce personnage qui revient. Devos, il en est incapable, il va pas faire l'histoire de Raymond. Vous voyez bien, toutes les histoires qui commencent, c'est justement, il n'y a pas de personnage, il y a une situation un peu absurde, il faut créer un espace un peu commun qui va passer par la scène. C'est toujours la même manière de fonctionner. Mais il raconte pas son histoire à lui. Il raconte très peu de choses qui se passent dans le social. Hein, on évoquera peut-être l'histoire tout à l'heure. Mais il évoque pas, il n'y a pas de scène, de séquence du type le flic arabe, très important pour moi, chez Coluche.
Hein. Alors allons-y, on reparlera peut-être de Coluche. Parlons de ce qui le distingue des comics et contemporains, de ses suiveurs, de ceux d'aujourd'hui. Par exemple, en ce qui concerne les limites à ne pas dépasser. Vous dites que Devos, c'est des vannes, mais des vannes qu'il referme.
Devos, il fait des vannes pour constamment... Il faut toujours le voir en scène. C'est dans ses textes, hein, même si on ne fait qu'écrire les textes. Devos, il s'est installé sur la scène, il y a des gens qui sont en bas, c'est le public. Il dit, on va vivre une expérience commune. Et il faut, au fond, qu'on change les uns et les autres. C'est-à-dire que l'expérience du rire, qu'elle est une montée dans l'imaginaire, il faut qu'on la fasse ensemble. Et à la fin du spectacle, il y a plein de phrases de lui que je pourrais citer, nous serons transformés les uns et les autres. C'est-à-dire, c'est une expérience. Et là, on voit bien que De Vos, il peut pas se permettre de ne pas avoir la scène. D'ailleurs, il a plein de sketchs un peu ironiques sur la télévision, etc. Et il dit, moi, quand je suis à la télévision, que c'est bon, puis que dans la famille, quelqu'un arrive et dit, il faut changer de chaîne, bah, le pauvre De Vos, il est mort. Hein, bah, il a raison. Voilà, De Vos, c'est quand même donc... moi, je pense qu'on peut réinventer ce type de comique. Mais De Vos, on l'a vu là dans le sketch de Pierrot le Fou, qui est un film noir, qui est un film dur, c'est un film sur la mort. Hein, c'est un film de Godard, qui est de Godard, son dernier film, c'est Adieu langage d'ailleurs, hein, c'est un de ses derniers films. C'est Godard, c'est quand même le tragique. Et De Vos se rappelle toujours le comique, c'est déjà la dégradation, et le tragique, c'est la destruction. Hein. Et il rappelle qu'en France, les intellos, le sage n'aime pas le comique. Lui, c'est justement un sage qui va se servir du comique pour créer quelque chose.
Et alors, le rire, c'est une dégradation qu'il faut racheter par une valeur. Comme quand le clown voit son pantalon qui dégouline, il se met à jouer excellemment d'un
instrument.
C'est
parce que le comique peut toujours être une dégradation qu'il faut renverser la vapeur et partir dans l'imaginaire, pas trop haut et pas trop bas. Parce que De Croo lui a dit, si vous allez trop bas... Pour être clair, aujourd'hui, on fait du bigard. Si vous allez trop haut, vous rencontrez Dieu. C'est bien embêtant. Donc, il faut, entre Dieu et bigard, il faut trouver une place.
Oui, mais en allant plutôt de bas en haut que de haut en bas.
Mais on n'arrête pas d'aller de bas en haut, donc des sens dessus-dessous. C'est des titres qu'on retrouve chez lui. Mais d'un mot, quand même, pour votre bien répondre. Il avait quand même très bien senti les choses. Pour lui, le rire exige d'avoir quelque chose qui résiste. Le rire ne peut pas être... Il faut que ça résiste. Et par exemple... Il aimait beaucoup Bedos, mais il disait toujours à Bedos, 500 entretiens, j'exagère bien sûr, qu'il monte, Bedos, arrête de croire que le comique politique c'est drôle, parce que le politique ça ne tient plus, c'est pas solide, ça a été solide jusqu'à De Gaulle, aujourd'hui on aura peut-être eu Sarkozy, c'est autre chose, mais le comique ça résiste pas. Et l'autre chose, donc vous voyez, ça c'est très fort, c'est de dire le comique, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui résiste. Et deuxième visée critique qu'il a, c'est le débraillé. Il aime pas trop le comique débraillé de Coluche. Mais il faudrait peut-être en dire plus.
Et puis il faut parler de ce dont, Olivier Mongin, vous nous avez dit qu'on parlerait. Alors j'ai retenu les mots. Il faut quand même qu'on revienne sur la question des mots. Exemple bien connu.
Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein. Ben parce que vous avez les phrases toutes faites comme ça, les phrases. J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Non mais franchement, je n'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins sortir. Il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça, évidemment. Dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ben, ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dites donc, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Alors le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu, que ce que je vois est triste. Joie, tu vois. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il voit. Oyons-nous. Vous oyez, ils voient. Loi, loi. Et loi, loi. Ce que nous oyons, loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors... Louis de loi, ah oui. Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là... Louis de loi, de Louis, ah oui. Ah oui.
Bachelard, dans sa pièce Grenier de Saint-Rémy-les-Chevreuses, et beaucoup de dictionnaires aussi.
Oui. Non, mais c'est un homme qui lisait beaucoup la littérature, etc. Mais cet art des mots, faut toujours voir quand même que c'est l'idée que chez lui, il peut y avoir une guerre des mots. D'ailleurs, c'est d'actualité, toutes ces choses-là. On peut tuer avec les mots, hein. Et donc, le problème, c'est comment arriver à parler, à jouer avec les mots, justement, à apprendre à jouer avec les mots. Aller dans un imaginaire, une imagination qui ne tue pas. Parce que là, on a écouté plein de choses. J'adore, moi, le sketch que tout le monde connaît, tutoyer. Tu me permets que je te tutoie. Je vous dis tu, Jean Lebrun. Je te tue. T-U-E, toi, et toi, tu me dis tu, T-U. Je me dis, si je dis tu à ce tueur, il va me tuer. Je lui dis, si on s'épaulait mutuellement, d'autant que nous sommes tous les deux en état de légitime défense. Bon, à une époque où on parle de terrorisme, de mots et tout cela, on voit très très bien que le langage, il peut tuer.
Celui qui demande la tête de son voisin, de celui qui est à côté, il a déjà perdu la sienne.
Exactement, mais on peut trouver chez lui en permanence ça. Il y a quand même l'idée que le langage, il est absurde et qu'il peut tuer aussi. Hein. Ça, c'est... Faut voir que tous les sketchs consistent à dire on tourne en rond et qu'au fond le monde est fou. Au fond, on aurait peut-être dit plus que le monde est tueur, le monde est fou. Comment le rendre moins fou ?
Cependant, il en est qui défile. Il faut qu'on dise un mot de ses positions politiques. 1968, j'ai vu les universités se vider et les rues se remplir. Le principe des vases communicants m'a expliqué un doyen, mais il n'avait plus toutes ses facultés. Et puis, ici, c'est un défilé pendant la Révolution française.
J'ai rêvé que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Je défilais tout seul dans les rues, désertes, en brandissant au bout d'une pique une tête de ci-devant. La tête de qui ? Alors là, chacun y met la sienne. Chacun est libre de brandir la tête qui ne lui revient pas. Enfin, je brandissais cette tête-là, j'aurais préféré en brandir une autre, parce que ma tête de ci-devant, elle n'avait pas tout à fait la tête de l'emploi, elle était hilare. Si bien que chaque fois que je la secouais, elle donnait l'impression de rire à gorge déployée. Alors je défilais comme ça et au début je chantais « Ah ça ira, ça ira, ça ira !» Et puis le doute venant, j'ai chanté « Est-ce que ça ira, est-ce que ça ira ?» Et puis à la fin, tout à fait convaincu, je dis « Ça n'ira pas !» Une intuition, ça. Et tout d'un coup j'entends « Êtes-vous deux ?» C'était un gendarme à pied. Il me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que je fais la révolution. Il dit « Lui, là-haut ?» Ben, je dis, il m'épaule. Je dis, enfin, je le soutiens, quoi. Il me dit, où allez-vous de ce pas ? J'ai dit, on va prendre la République. Ben, il me dit, vous pouvez pas prendre la Bastille, comme tout le monde ? Je dis, on l'a déjà prise en 89. Il me dit, comment, nous ne sommes qu'en 87 ? Je n'ai pas voulu discuter. J'ai dit, on a un peu anticipé.
Olivier Mongin.
C'est difficile de dire quelles étaient les positions politiques. Je pense pas qu'il était contre la révolution de 89, mais on voit très bien que chez lui, il y a deux, trois choses.
Ou de perception que d'insurrection.
Oui, on voit très bien que lui, il est pour une révolte qui nous font monter dans l'imaginaire, mais pas pour une révolte qui coupe les têtes. Et là, au fond, on comprend beaucoup de choses avec ce sketch, parce que vous voyez bien que perdre la tête, qui veut dire couper la tête du roi, c'est le régicide, bien entendu, c'est perdre la boule. Donc il y a chez De Vos, il y a toute une réflexion sur le monde de l'égalité, sur le monde où il n'y a plus le haut et le bas. En même temps, lui, tout son travail, c'est de faire en sorte de faire communiquer de temps en temps le haut et le bas. Alors ça donne ce sketch génial, qui est un sketch sur la démocratie, où le carnavalesque est difficile, puisque nous sommes tous égaux. Donc effectivement, le fou du roi n'a plus grand sens.
Et les pouvoirs sont nécessaires qui contrôlent la guerre des envies entre les individus.
Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une guerre civile qui est aussi une guerre civile des mots. On coupe la tête, on coupe les têtes, c'est d'actualité aujourd'hui que je sache. Bon, c'était pas que la tête du roi, tout ça est bien compliqué. Et donc son problème c'est, en même temps... faut respecter le français moyen. Mais c'est qui le français moyen ? J'adore ce sketch. Le français moyen, c'est, au fond, pour bien comprendre tout de suite, c'est un nain et un géant qui parlent. Il y a donc celui du haut, il y a celui du bas. Il y a le grand et le petit, il y a Laurel et Hardy. Enfin, il est petit, le français est petit. Nous sommes tous des petits français. Je me baisse peut-être pour être à la même hauteur. Tous égaux. Vous voyez, on est au cœur de questions très... Et comme je m'éloignais, je les entendais, qui faisaient des réflexions sur mon compte. Il n'est pas normal, ce gars-là, dit le nain. Et le géant lui a répondu, c'est ce qu'on appelle un français moyen.
Oui, mais en même temps, il dit, il y a trop de petits cons qui se moquent de ceux qui leur sont supérieurs.
Vous voyez le problème.
Il doit parler de certains de ses successeurs.
De Vos, c'est qui sait qu'il y a des nains, il y a des gros, il y a des petits, et il y a des français moyens, et qu'on est tous français moyens, mais qu'on est aussi un peu nains ou géants aussi à nos manières. Voilà. Donc le problème, c'est, dans ce monde d'égalité, c'est comment rétablir des hiérarchies. Et moi, artiste, Raymond De Vos, je vous dis que je suis un peu plus haut que vous, parce que je suis sur la scène, et n'importe qui n'est pas comique comme Raymond De Vos, je vais vous apprendre à rire ensemble.
Éclat de rire, c'est un livre d'Olivier Mongin au Seuil. Il aimait bien qu'il y ait des travaux de type intellectuel sur ces textes.
Ah, il se pas du tout de ça.
De quoi rions-nous ? Notre société, c'est comique. Sous votre signature, c'est pluriel, Fayard. Merci à vous. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Jean-Noël Velland, la préparation Franck Olivard, et puis je signale la parution
sous l'enseigne de Radio France et de l'INA, d'un CD concernant, en ce 10e anniversaire de sa disparition, quelques-uns des meilleurs sketchs de Raymond Devos. Mathieu Vidard.
Oui Jean, ben on va voir avec nous que la société des insectes, c'est parfois très marrant aussi, avec des comportements très originaux.
C'est la plus vaste du règne animal, les secrets de la réussite de nos voisins à six pattes. Pas de tête coupée, six pattes.